Bonjour à toutes et à tous, salut Thibaut.
Salut Guillaume.
Alors aujourd'hui on va vous parler de Da Five Bloods, le nouveau film de Spike Lee qui sort ce vendredi 12 juin sur Netflix, donc la célèbre plateforme de streaming. Film un peu plus actuel, hein. Je pense que, mis à part le sujet puisqu'il s'agit d'un film qui se déroule en partie pendant la guerre du Vietnam et en partie aujourd'hui, ça reste un film d'actualité. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il tombe à pic avec forcément le mouvement Black Lives Matter et les différentes protestations de par le monde, en Europe, aux États-Unis bien sûr, et puis aussi parce que Spike Lee est un réalisateur, vous le savez sans doute, très très engagé. Il était d'ailleurs au Festival de Cannes en 2018 avec son film Black Lives Matter, où un noir infiltrait le Ku Klux Klan par le biais de son téléphone et par le biais également de son collègue flic. Donc c'était déjà un film très engagé qu'on avait vu donc ensemble Thibaut à Cannes. Je pense d'ailleurs que la critique est disponible quelque part sur Cinécast et même sur notre page Facebook. Mais ici, on parle de Da Five Bloods. Alors de quoi ça parle ? C'est l'histoire de quatre vétérans afro-américains qui retournent au Vietnam pour y retrouver la dépouille de leur chef, qui est donc mort au combat, c'est ce qu'on présume en tout cas, et un trésor qui a été enfoui justement donc lors de la guerre du Vietnam. Forcément, vous vous doutez bien que ce film-là va servir de base, hein, pour pouvoir critiquer la manière dont les États-Unis gèrent les Afro-Américains et la problématique raciale, bien sûr, aux États-Unis. Puis, film de Spike Lee oblige, on rentre dans le vif du sujet. Mais je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Black G.I., is it fair to serve more than the white Americans that sent you here? Nothing is more confused than to be ordered into a war to die without the faintest idea of what's going on. I dedicate this next record to the soul brothers of the 1st Infantry Divisions. Be safe.
Welcome back to Vietnam.
Look what I found.
What a man in all his glory.
Who was that guy?
That brother was the best damn soldier that ever lived. Hey! I have no place
to stay. Hey! We bury it. Later on, we come back and collect.
Alors Thibaut, tu as eu l'occasion de voir le film un peu quelques jours avant sa sortie sur Netflix. Qu'est-ce que tu en as pensé ?
Alors, déjà, il faut savoir que c'est du Spike Lee pur jus. C'est-à-dire que je suppose que tu te souviens assez bien de Black Lives Matter. À la fin du film, je crois que c'est vraiment juste avant le générique, il reparlait de la question raciale, comme dans tous ses films de toute façon, mais avec notamment pas mal d'images d'archives. Et c'était des images d'archives qui étaient assez récentes à ce moment-là, parce que c'était les protestations à Charlottesville avec l'extrême droite américaine, etc., et les affrontements, et le type qui avait foncé en bagnole dans la foule. Du coup, voilà, pour bien appuyer d'ailleurs son propos, Spike Lee avait utilisé ces images d'archives relativement récentes pour bien montrer que la question du racisme était très loin d'être réglée aux États-Unis, quoi. Donc ici, voilà, il parle des soldats noirs américains qui ont combattu lors de la guerre du Vietnam et qui vont effectivement retourner là-bas pour retrouver la dépouille de leur commandant, enfin de leur chef d'équipe, ainsi que des lingots d'or qu'ils ont enterrés pendant la guerre.
Si ça part plutôt bien. Si je ne me trompe pas, le film se déroule en deux temporalités. On a la temporalité au moment de la guerre du Vietnam avec Chadwick Boseman, et on a une temporalité aujourd'hui avec les personnes un peu plus âgées qui y retournent, c'est ça ?
C'est exactement ça. Et du coup, en fait, ça démarre plutôt bien. Donc on est directement dans le bain avec cette bande de potes, on va dire ça comme ça, hein, parce qu'ils ont quand même fait la guerre ensemble, qui se retrouve à l'aéroport à Hanoï, hein, je suppose, afin de partir faire leur aventure de retrouvailles. retourner dans la jungle, donc, avec un guide, etc. Et puis, retrouver, évidemment, la dépouille et les lingots. Et voilà, ça démarre plutôt bien, parce que tu vois ces personnages qui se retrouvent. C'est pas trop... Je le dis avec des pincettes, hein. C'est pas trop moralisateur au départ pour du Spike Lee.
Oui, parce que c'est vrai que
ça le reste quand même. Voilà.
Ouais, c'est le reproche qu'on peut faire à son cinéma, c'est qu'il est, il est parfois un peu, il y va pas avec des pincettes, et c'est un peu la boule de bowling qu'on lance sur... comme un bourrin. Ouais. Voilà, c'est pas toujours très délicat.
Mmh. Non. Et c'est très historique, c'est très, il y a beaucoup de name dropping aussi. C'est-à-dire qu'il te présente des personnalités noires dont, pour la plupart, enfin en tout cas nous en tant que blancs européens, on ne connaît pas forcément. Donc voilà, il veut remettre en avant des personnalités noires, parfois des sportifs ou des soldats, etc. Histoire de vraiment, j'exagère un peu, mais voilà, de refaire un petit historique et de montrer à quel point les noirs ont été impliqués dans les guerres américaines. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, mais Spike Lee avait déjà fait un film sur les soldats noirs lors de la guerre 40-45, qui s'appelait Miracle à Santa Ana. C'était pas terrible, mais soit. Mais du coup, ici, il démarre avec une histoire assez sympa de prime abord, avec des personnages qui sont très bien aussi, parce que cette bande de potes, elle fonctionne bien. Il y en a un, c'est assez paradoxal, mais ça a toute son importance, en fait. Il y a un des gars de la bande qui est électeur de Trump. Donc on est à l'heure actuelle, mais vraiment aujourd'hui, dans le contexte actuel. C'est pas, il ne te fait pas croire que le président américain, c'est quelqu'un d'autre avec un pseudo, enfin tu vois, un nom qui sort de nulle part, quoi. C'est Trump qui est président aujourd'hui. Et donc tu vois ce grand black avec une casquette rouge MAGA, hein, Make America Great Again.
C'est Kanye West.
Avant son petit revirement, parce qu'apparemment Kanye West il commence à se rendre compte que c'était peut-être pas terrible, mais voilà, je trouve ça assez intéressant d'avoir un personnage qui est trumpiste dans cette bande de potes. Et voilà, pendant une heure et demie, 1h20, allez, on va dire, c'est pas trop mal. Et puis il y a un moment
d'aventure, quoi.
Ouais, c'est ça. Il y a cette quête qui est là et qui est plutôt bien suivie. Et tu sais qu'ils vont arriver au bout, parce que sinon le film n'a absolument aucun intérêt. Mais évidemment, ils vont se passer plusieurs choses. Et il y a une des choses en question que tu vois venir à des kilomètres. Et je me suis dit, putain, j'espère qu'ils vont pas faire ça. J'espère qu'ils vont pas faire ça. J'espère qu'ils vont pas faire ça. Et puis, bam, évidemment que ça arrive. Et évidemment que tout se barre en couille. Et puis ça part dans une espèce de délire. Un peu bizarre, où t'as des types qui crèvent, t'as des méchants qui arrivent, enfin bref, truc un peu bizarre.
Tonnerre sous les tropiques.
Je vais pas vous expliquer, mais c'est un peu ça, c'est vraiment ça, c'est un peu tonnerre sous les tropiques, c'est-à-dire que c'est un peu la guerre du Vietnam qui revient, alors qu'elle est pas censée être là, tu vois. et malheureusement, ça part un peu dans tous les sens, et ça se casse la gueule sur la fin, quoi. La dernière heure est vraiment laborieuse, parce que le film fait 2h15, hein, donc la dernière heure quart, les dernières 45 minutes sont compliquées. Mais enfin, c'est dommage, parce que ça partait bien, les intentions sont plutôt bonnes, mais le problème, c'est Spike Lee, quoi. C'est vraiment un film de petit malin, c'est-à-dire que toutes les scènes, enfin, sauf au début du film d'ailleurs, et ça j'ai pas trop bien compris parce que j'ai fait mes recherches après et je j'ai pas trouvé, mais le film est tourné globalement dans deux formats, un format 1.33, 4 tiers si tu veux, assez classique pour toutes les scènes du passé, hein, pour te faire croire que c'est filmé en Super 8, etc. Donc c'est... Voilà, classique, choix de réalisation, pourquoi pas. Et puis, toutes les scènes du présent sont en 2.39, donc en scope, en format élargi. Et d'ailleurs, quand tu regardes sur ta télé, t'as pas les barres noires au-dessus et en dessous, tu vois. Ton écran est plein. Sauf que, en fait, il y avait des scènes où il y avait au tout début du film avec les barres noires. Donc, en fait, il a juste fait un petit effet de mise en scène. Où à un moment, t'as l'écran qui s'ouvre complètement, t'as une espèce de lever de soleil, et t'as l'écran qui s'ouvre à partir du milieu, et les barres qui remontent et qui descendent en même temps, et pour t'ouvrir complètement l'écran, tu vois. Donc c'est vraiment des petites astuces de metteur en scène Ouais, c'est un peu pour se faire bousser, parce que vraiment, quand tu vois ces changements de format, globalement, ça tient la route, mais la façon dont il fait les transitions, ça fait vraiment film de petit malin, tu vois. Du coup, d'un point de vue purement technique et mise en scène, c'est parfois un peu too much, je trouve, pas forcément nécessaire, mais voilà, après, sur Netflix, le film est dispo en 4K avec un son Atmos, donc c'est assez canon. C'est très sympa à voir. Donc voilà, si vous êtes équipé pour, vous pourrez en profiter pleinement. Mais globalement, oui, quand même déception, Spike Lee.
Un dernier mot peut-être sur Chadwick Boseman au casting et notamment aussi Jean Reno.
Ah oui, tout le casting. Bah alors Chadwick Boseman incarne ce militaire qui est mort pendant la guerre d'ailleurs. Et autre choix assez intéressant, même si au final je pense que c'est un choix financier. Toutes les scènes du passé, ce sont aussi les vieux comédiens qui jouent leur eux jeunes, en fait, si tu veux. Y a pas de Netflix n'a pas mis le pognon pour faire du de-aging et ils n'ont pas engagé des comédiens plus jeunes pour jouer les personnages parce que c'est quelque chose que Spike Lee aime pas trop. Et du coup, ce sont les mêmes comédiens qui ont joué leur propre rôle comme soldats jeunes, sans forcément les maquiller pour les faire passer pour plus jeunes. Et je trouve ça assez intéressant parce que justement, ça fait une espèce de projection par rapport au présent, parce qu'ils ne revivent jamais vraiment le passé, mais parfois, c'est vu qu'il y en a, enfin, ils ont tous PTSD, stress post-traumatique, bah, ils se remémorent tous des moments de la guerre à plusieurs moments. C'est pour ça que tu vois tous ces flashbacks. Et donc, je trouve ça pas mal d'avoir mis les comédiens vieux dans les rôles des personnages, quoi. Sinon, pour le reste du casting, rapidement, je trouve que toute la bande des quatre gars, elle est vraiment top. Il y a le fils aussi d'un des personnages qui est là, et je pense qu'il est incarné par Jonathan Majors. Très chouette comédien, je ne connaissais pas beaucoup, je l'ai déjà vu, mais globalement, il est encore assez discret. Et sinon, bah, t'as Jean Reno qui fait le cliché du frouze, le cliché français en Indochine par excellence, quoi, tu vois. T'as Mélanie Thierry aussi qui a un rôle. Écoute, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, pourquoi pas, elle fait le job. Et puis tu as aussi Paul Walter Hauser qu'on a vu récemment dans le dernier film de Clint Eastwood, vu que c'est lui qui avait le rôle principal. Acteur il va vraiment monter. Là, je sens que depuis Aitonia, il enchaîne et il est parti, effectivement. Donc voilà, le casting assez top. Mais t'as toutes les qualités d'un film de Spike Lee, mais t'as aussi tous ses défauts, malheureusement, quoi.
Ouais. Donc ça, c'est un peu sa conclusion de cette critique du film Da Five Blood, c'est que l'idée est là, l'exécution est prenante au début avec ces personnes qui retournent sur les pas de la guerre du Vietnam et qui du coup revivent un peu le traumatisme de cette guerre-là et l'exploitation des Noirs qu'on a envoyés au combat. Donc ça, c'est un message en soi. Mais après, Spike Lee part peut-être un peu dans l'exagération, dans le côté peut-être trop... m'as-tu vu qui prend le dessus sur le film et qui le transforme d'un film narratif en un film peut-être un peu trop direct et du coup moins intéressant, quoi, si je résume ta pensée.
Disons que il part dans un truc très quand même assez fort premier degré et historique et une critique assez virulente évidemment du régime américain actuel. Et puis ça part dans une espèce de presque comédie potache, j'exagère un peu, mais effectivement, il y a ce petit truc à la Tonnerre sous les Tropiques qui est là, et je trouvais que c'était pas vraiment nécessaire pour parler, pour continuer d'aborder le sujet qu'il aborde, quoi.
Très bien. Quelle note tu lui donnes du coup à Da Five Bloods?
Je vais dire une étoile. Vraiment, je trouvais que ça partait bien et toute la seconde partie m'a vraiment déçu. Et il n'y a rien à faire à un Spike Lee, il y a des choses que j'aime beaucoup dans son cinéma, mais ses défauts, c'est vraiment terrible, quoi. C'est ce côté moralisateur. C'est ça, mais c'est vraiment ce côté moralisateur, militant, ça ne me dérange pas et je trouve ça très bien et important, mais voilà, parfois, ça il mélange plein de choses et ça ne fonctionne pas, voilà.
Ok, donc voilà, une étoile pour Da Five Bloods. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires du podcast ou de la vidéo si vous regardez cet extrait sur YouTube. On se retrouve très très prochainement pour un nouvel épisode de La Seconde Chance et puis bientôt pour la réouverture des salles en Belgique. Merci d'avoir écouté Cinécast, à très bientôt.